culture. La curiosité sous toutes ses coutures. 17h-17h30, un mercredi sur deux, et le dimanche à 11h, sur les bonnes ondes de Radio Campus Angers.
Bonjour à tous et bienvenue dans Franche Culture,
patrimoine, spectacle, visite et initiative. L'Anjou va vous surprendre par sa richesse. Et nous sommes sept, sept pour satisfaire votre curiosité. Aujourd'hui, on reste dans un mouchoir de poche au cœur d'Angers. Trois sites emblématiques du centre-ville, le château, la collégiale Saint-Martin et la jolie place Giffard-Langevin. Et on parle bouquin, célèbre d'abord et plus confidentiel ensuite. Cécile présente les entretiens littéraires de la collégiale Saint-Martin. Minouche nous fait découvrir l'association La Marge, des éditions pas comme les autres. Et tout de suite, on commence avec vous, Marie, et votre invité pour retrouver le faste de la vie à la cour du château d'Angers avec l'exposition Le Retour du Roi quand le château était habité. On remonte le temps avec vous, Marie, et on passe le pont-levis du château d'Angers.
Une coquille vide, c'est parfois le reproche qui est fait au château d'Angers, et c'est vrai que cette imposante forteresse du XIIIe siècle au cœur de la ville n'a plus son mobilier. Alors pour tenter de comprendre le faste de la vie à la cour des ducs d'Anjou il y a 600 ans, avec nous en studio Catherine Leroy. Catherine, bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes la chef du service culturel du château et commissaire de cette exposition « Le Retour du Roi ». Comment s'explique l'absence de meubles au château ?
Alors d'abord parce que la cour était itinérante, donc emportait avec elle du mobilier. Et le terme de mobilier, vous voyez bien que c'est la même racine. Hein, c'était des choses qui servaient à transporter également. On avait beaucoup de coffres, de bancs, de choses assez faciles à emmener avec soi. Donc même s'il restait des choses à l'intérieur du château, et on le sait par un inventaire de 1471 qui nous décrit les 55 pièces du château et ce qu'on pouvait y trouver à l'intérieur, on imagine bien que tout ne restait pas sur place. Et puis après, le château a été occupé par l'armée, a même servi de prison au XIXe siècle. Donc on n'a pas conservé le mobilier, pas du tout, absolument pas, aucun.
Alors comment est-ce que vous avez en partie répondu, comment est-ce que vous avez réussi à recréer l'ambiance à la vie de la cour ? D'abord, sur quel document vous êtes appuyé ? Donc ce fameux inventaire.
Inventaire de 1471, qui est passionnant. Hein. On nous décrit salle par salle ce qui s'y trouve, des œuvres d'art, des objets un peu exotiques, parce que le roi René avait une ouverture sur le monde absolument extraordinaire. Il avait même un abécédaire pour traduire les lettres du sarésianisme et de la chrétienté. Vous voyez, une sorte de pierre de Rosette un peu avant l'heure.
Donc c'est un descriptif, mais ensuite l'usage aussi des objets.
Alors oui. Plus ou moins, nous parle d'un manicordion, c'est-à-dire d'un instrument de musique tout désaccordé. Donc vous voyez, c'est vraiment des choses qui devaient plus servir à grand-chose non plus. Des statues, des tableaux, mais aussi le lit avec la couleur des draps, etc. Enfin, y a vraiment, c'est une source absolument incroyable d'informations qui se recoupe avec les sources des contes où le roi René dit « faites ceci, faites cela, si ça va coûter tant, etc. » Notamment, par exemple, il explique qu'il faut faire natter sa chambre avec les nattes qu'on a utilisées l'année dernière.
Et si On va raconter ce que c'est les nattes.
Des nattes
c'est revenu à la mode.
Oui, en jonc de mer.
Voilà. Voilà. En fait, tous les sols étaient recouverts de nattes en jonc de mer et ensuite de tapis.
Des tapis orientaux. Voilà. Oui, très absolument magnifique. Et donc, il dit dans sa lettre qu'il envoie au concierge pour qu'il s'occupe de ça. Et si c'est gâté, demandez à un tel, il va vous donner de l'argent pour en racheter. Donc, vous voyez, on est vraiment dans une précision extraordinaire.
Donc, cet inventaire, les comptes.
Les comptes. Et puis, la troisième source, c'est évidemment, alors, il y a même une quatrième source, l'archéologie. Ce qu'on va retrouver. Et la troisième source, ce sont les manuscrits les ouvrages écrits par le roi René et illustrés par Barthélemy Deck.
Les enluminures.
On sait que Barthélemy travaillait au château. Hein, dans l'inventaire de 1471, c'est écrit le tabouret où s'assoit Barthélemy pour besogner. Donc on comprend bien qu'il est là, aux côtés du roi, et que ce qu'il montre dans ses enluminures, c'est vraisemblablement les salles.
Oui, voilà pour les documents. Et quels objets alors vous avez présentés ?
Alors, on a fait une liste en fait de ce qu'on pouvait trouver. Et puis après, on a essayé de croiser avec les prêteurs ce qu'ils pouvaient nous prêter. Et puis on s'est dit aussi, parce que l'origine de cette exposition, c'est la proposition du prêt des costumes, hein, des 12 costumes, 6 paires de couples, enfin 6 couples de costumes qui sont exactement, oui, c'est ça, des reconstitutions qui sont exactement contemporains de nos ducs et duchesses d'Anjou. Donc ça tombe très bien, ça permet de les évoquer, de raconter leur vie, de redécouvrir Louis III, par exemple, dont que personne ne connaît, puisqu'il a été complètement...
oublié par Roi René.
Exactement, doublé, éclipsé par le Roi René. Et donc, on s'est dit, ces costumes, on pourrait les présenter dans un espace qui soit un peu meublé, qui évoque cette ambiance. Donc, on a reconstitué, évidemment, en partie, une salle d'apparat, un lieu où on pouvait manger, et puis une chambre. Et donc, on a demandé à des reconstituteurs avec qui on avait déjà travaillé, s'ils avaient du mobilier à nous prêter, dont ils ne se servaient pas cet hiver.
Qu'est-ce que c'est, les reconstituteurs ?
Ah, c'est des gens qui sont passionnés par le Moyen-Âge, qui vivent pratiquement comme au Moyen-Âge, qui se font faire des armes, des armures. Ah oui, mais quand je vous dis qu'ils vivent, c'est vraiment le cas, parce que c'est poser la question de l'accrochage d'une tenture, et j'ai dit à son propriétaire, comment on l'accroche ? On va mettre du velcro. Il a dit, apportez-moi un défibrillateur. Je vous assure, c'est ses propos.
Ils sont à fond.
Et oui, parce qu'il était absolument inadmissible pour lui de mettre du velcro pour pas...
C'est pas médiéval, d'époque, non, c'est pas d'époque, le velcro, voilà.
Est-ce qu'ils arrivent au château en côte de maille ?
ça a pu arriver, oui. Ils ont pu arriver au château en armure ou en côte de maille, effectivement.
Bon, en dehors des plaisanteries, c'est vrai que les 6 costumes sont, en fait, ils sont de maintenant. Donc, on voit leur brillant, en fait. On les voit pas usés, c'est pas des costumes d'époque usés. Non, mais c'est ça qui est bien aussi, parce que finalement, on se rend compte comment étaient ces vêtements à l'époque.
Oui.
Voilà, c'est un des grands intérêts de l'expo, des facsimilés de cette exposition.
Ce serait absolument impossible d'avoir des costumes de cette époque s'ils sont conservés, ils sont extrêmement rares.
Et puis ils sont mis à plat, ils sont mis sous verre, alors que là on les a.
Voilà, on peut les voir sur des mannequins.
Ouais, de très près. L'exposition, elle couvre une période de 600 ans, durant la guerre de 100 ans, avec des personnages de premier plan. Ce sont des gens qui font partie des grandes familles régnantes d'Europe. Qui sont-ils et qu'est-ce qu'ils font de leur vie ?
Alors, c'est duc et duchesse d'Anjou. On les connaît peu, en fait. C'est assez compliqué quand vous faites visiter le château et que vous dites aux gens le château a été construit par Louis IX, Saint-Louis, et ensuite vous parlez de Louis Ier, les gens ils vous disent « Mais vous êtes sûr que vous vous trompez pas ? Là, c'est pas possible qu'il y ait un Louis Ier après un Louis IX. » Et effectivement, c'est pas la même dynastie. Hein. Quand on parle de Saint-Louis, c'est la dynastie des rois de France. Et tant Louis Ier que le roi René ne sont pas des rois de France. Ce sont des proches du roi, des frères, des neveux, des oncles, mais pas des rois eux-mêmes. Donc, vous voyez, il y a déjà cet élément-là à recadrer dans l'esprit des gens. On parle de la dynastie donc des Anjou, les ducs et les duchesses, de Louis Ier jusqu'au roi René. C'était des gens incroyablement fastueux. On a complètement perdu de vue de ça. Complètement dans le... Vous savez, Louis Ier, son frère Charles V, le duc de Berry, le duc de Bourgogne, on les appelle les princes aux fleurs de lys. Et ça veut tout dire. C'est vraiment des grands, grands seigneurs. Hein. Le roi René aussi, c'était un très grand seigneur.
C'est ce qu'on voit dans l'expo. Il vivait vraiment dans le confort.
Oui. Alors, on le perçoit moins maintenant au logis qu'on n'a plus par exemple les immenses cheminées.
Il n'y a plus les cheminées.
C'est ça, on voit les traces sur les murs, mais c'est très compliqué à lire. Et en fait, on se rend compte que ces gens, ils vivaient dans le luxe et dans la richesse et dans le confort. Ils avaient envie, tout comme nous, que leur vie soit confortable. Ils n'avaient pas envie d'avoir froid, eux non plus. Hein. C'est pareil, pas de coupure d'électricité, mais ils voulaient pour autant être bien chauffés aussi.
Et entourés de belles choses, parce que c'était des collectionneurs et des mécènes.
Tout à fait. Ça, on commence par Louis Ier, qui à 25 ans a déjà plus de 70 tapisseries sur des sujets... Oui. Lié à l'histoire de l'Antiquité ou aux héros du Moyen-Âge ou à l'amour courtois aussi. Il avait 3600 pièces d'orfèvrerie. Enfin, il faut vraiment imaginer que ce sont des choses absolument fastueuses. La description de son armure, par exemple, c'est absolument extraordinaire. Avec le gantelet, c'est-à-dire les mains, avec des ongles en or. Vous voyez, enfin, c'est tout ça est d'une somptuosité absolument incroyable, des pierres précieuses, enfin, des choses très, très... très, très luxueuse.
Alors, la dernière salle, elle est assez touchante parce qu'elle présente leur enfance au prince d'Anjou. Donc là, c'est des facsimilés, mais enfin, c'est quand même très touchant de voir une reproduction en fait, des jeux des tout petits, puis des jeux des plus grands,
oui.
Et des petits vêtements.
Oui, et donc les choses qui sont liées à l'enfance, c'est aussi très intéressant parce qu'on se rend compte que les jeux sont des jeux partagés dans toutes les catégories sociales. Évidemment, si vous êtes fils de roi, on peut imaginer que vous avez une dînette en or alors que les enfants auront plutôt en bois, etc. Ce sont les parents qui fabriquent parfois les jouets. Et puis, on peut les acheter aussi, et ça, c'est assez étonnant, sur les lieux de pèlerinage, par exemple. Et si vous allez encore aujourd'hui aujourd'hui à Conques, vous verrez sur la place, ça m'est arrivé récemment et c'est pour ça que je me suis fait la réflexion, sur la place de l'abbatiale, il y a un marchand, je ne sais plus comment ça s'appelle, je ne vais pas vous dire une bêtise, ce n'est pas à la toupie, mais c'est un petit peu ça. Donc on a vraiment, c'est encore aujourd'hui, cette idée qu'on pouvait acheter des jouets sur les lieux de pèlerinage, c'était vraiment l'endroit là où on savait que les parents allaient acheter en fait pour les enfants.
Voilà, et comme l'exposition est en partie immersive, en fait, il y a des jeux qui nous sont accessibles.
Exactement.
Il y a une vitrine avec des reproductions de jeux pour les tout-petits, mais il y a deux plateaux de jeux très grands où on peut jouer en famille.
Au goupil et aux poules, par exemple. Comment le goupil, c'est-à-dire le renard, est là pour manger les poules, évidemment, et les poules sont là pour encercler le renard et, l'empêcher de les manger.
Catherine Leroy, merci.
Donc l'exposition « Le retour du roi » est présente au Château d'Angers jusqu'au 26 mars. Tous les renseignements pratiques sont sur le site internet du château. C'est gratuit pour les moins de 26 ans. Et tout de suite, on écoute Violaine qui chante l'amour dans « Le pont des soupirs ».
Embrasse-moi pour le meilleur et pour le pire. Invente-moi notre avenir. Fais-moi danser à en mourir. La première fois que je t'ai vue, tu marchais seul dans la rue. Nos regards se sont alors croisés. Qui de nous deux en a eu le souffle coupé? À cet instant, nous ne pouvions nous douter que nos deux cœurs se parlaient pour ne plus se quitter. Même le temps n'a pas voulu s'inviter. Quand auprès de toi je me suis faufilé et je t'ai demandé, emmène-moi sous le pont des soupirs. Embrasse-moi pour le meilleur et pour le pire. Invente-moi notre avenir. Fais-moi danser.
Cécile, les entretiens littéraires, c'est l'occasion de se frotter aux écrivains stars de nos librairies. C'est à la Collégiale Saint-Martin, à Angers, du 4 au 12 février.
Quatre journées consacrées à des rencontres avec des écrivains et pas des moindres, pas moins de 5 prix Goncourt et 3 académiciens. La formule, c'est un tête-à-tête d'une heure avec un ou parfois plusieurs auteurs. C'est le partage de leur parcours humain, c'est la discussion sur leurs œuvres et sur ce parcours qui a souvent inspiré les romans. Cela se passe un petit peu comme si on était à la maison, presque en toute intimité, et bien entendu ensuite, le public peut poser ses questions. Nous recevons Antoine Boussin, l'animateur de ces rencontres. Antoine Boussin, bonjour.
Bonjour.
Je vois que vous n'êtes déjà pas d'accord.
Ben oui, parce que le public ne pourra pas poser de questions.
Ah, mais il m'a semblé en avoir posé certaines années.
Non.
Jamais.
Non, mais par contre, au moment de la dédicace, ils auront tout le temps de parler à l'auteur.
Ah oui, c'est vous qui avez le privilège des questions.
Alors. Voilà.
Voilà. Mais en tout cas, je suis toujours très intriguée par ce phénomène. On a l'impression d'un tête-à-tête, c'est plutôt intimiste, et pourtant, il y a quand même un public nombreux. Il
400
faut le
personnes.
Dire. Comment est-ce possible d'avoir cette impression d'être à la maison? Comment vous faites?
Écoutez, je ne sais pas. Là, ça fait des années que je fais des entretiens avec des auteurs. Je les faisais quand je dirigeais la librairie Richer. J'avais créé un rendez-vous hebdomadaire. J'avais créé une salle aussi, exprès pour cet exercice. Je crois, la base, c'est que j'aime et je respecte tous les auteurs que j'ai invités cette année. C'était pareil l'an dernier. Hein. Mais si vous voulez, quand j'ai eu le premier entretien l'an dernier avec Leïla Slimani, j'ai été particulièrement heureux et chaleureux parce que j'aime cette femme, j'aime ce qu'elle écrit, j'aime ses textes. Ben, je vais vous dire la même chose pour pratiquement les 16 auteurs que j'ai invités cette année pour les 12 entretiens aux dates que vous avez données.
Alors, est-ce que les écrivains se livrent facilement?
Il y en a quelques-uns là dans cette liste que je n'ai jamais interviewé. Je ne sais pas comment ils vont être, mais si vous voulez, une heure sur scène, un public et un moment de dédicace, tous les auteurs sont d'accord avec ça. Même si certains peuvent être plus courts dans les réponses, un peu plus timides ou avec un peu de trac au départ. Mais j'ai quelques moyens pour essayer d'alléger tout ça. s'il y a un peu de trac.
C'est quoi les moyens?
C'est d'abord sourire, leur dire qu'on a beaucoup aimé leur livre. Il est vrai que là, honnêtement, pour moi, il y a une diversité d'auteurs. Je pense qu'on le dira, parce que c'est assez étonnant dans ces 12 entretiens. Il n'y a pas deux personnalités semblables. À un moment, on m'a reproché, je ne dirai pas qui, qu'il n'y avait pas de parité dans mes entretiens. Mais la littérature, ce n'est pas une histoire de parité. Il y a des années, l'an dernier, j'avais plus de femmes que d'hommes, là j'en ai moins. Mais si vous voulez, un lien littéraire entre Laurent Godet et Lola Lafont, il n'y en a pas.
Voilà, c'est la question que j'allais vous poser, parce que j'ai effectivement cherché un lien, moi, tout de suite, j'en ai absolument pas trouvé. Alors, c'est quoi le critère de choix?
Je suis bien incapable de vous le dire, parce que je démarre à réfléchir sur les entretiens à partir du mois de septembre. En septembre, on est en pleine rentrée littéraire. Donc je ne peux pas construire mes entretiens de février qu'avec des auteurs qui ont été dans les médias ou dans les librairies depuis 6 mois. Mais au mois de septembre, je ne savais pas que Daniel Pénac allait mettre le point final à sa saga Malocène, puisque le livre sort là, en ce moment. Je ne savais pas non plus que Philippe Besson allait écrire un ouvrage bouleversant sur l'infanticide. Je ne savais pas que Dany Laferrière écrivait pour la première fois un texte sur le racisme. Lui qui l'a connu, qui s'est exilé d'Haïti, qui a été vivre à Montréal, non sans problème, et qui a connu aussi le racisme en France. Tout ça, c'est des choses qu'on ne peut pas prévoir. Et puis, je vais vous dire, je suis comme un gamin. Je suppose que vous avez fait votre liste de cadeaux de Noël avant Noël.
Oui.
Bon, cette liste, elle était énorme, sans doute. Elle correspondait à tous vos désirs. Vous n'avez pas été exaucé sur tous vos désirs.
Presque.
Ah, vous avez de la chance. Parce que moi, j'avais fait une liste d'auteurs avec 15 auteurs de plus qui ne sont pas venus, qui n'étaient pas libres, ou qui étaient un peu fatigués de la promo de septembre. Donc je lance des idées comme ça, et puis après le résultat, il est là.
Vous êtes un professionnel des livres, un amoureux de la littérature, je pense que tous les auditeurs l'ont compris. Comment vous est venue cette passion? Comment avez-vous débuté?
Hasard total. Hasard total, j'ai fait des études d'histoire à Paris, à la Sorbonne, et j'ai pris, comme on dit familièrement, un râteau monumental à l'agrégation. À cette époque-là, c'est pas facile aujourd'hui, mais enfin, il y a un peu plus de chances d'obtenir l'agrégation qu'à l'époque. Il y avait 2000 candidats et 40 postes. Puis je crois que j'ai rien préparé. C'était après mon service militaire qui était obligatoire. J'étais décontenancé devant la bêtise humaine que j'avais confrontée, avec qui j'avais vécu pendant un an. En fait, j'avais envie de travailler. Et j'ai trouvé, par hasard, un job d'été dans une librairie à Paris. Je suis tombé dans le chaudron. Je suis resté 10 ans libraire. Et après, j'ai travaillé 20 ans dans l'édition, chez Grasset, qui était une maison magnifique, il l'est toujours, mais qui est une maison magnifique. Et puis après, j'ai eu l'opportunité, après 20 ans de Grasset, vous savez, on m'appelait Antoine Grasset par moment. Hein. Donc il a fallu quand même que je coupe un peu le cordon. Et à ce moment-là, Pierre Richer m'a proposé de diriger la librairie
Richer,
qui lui appartenait.
À Angers. On n'a pas beaucoup de temps, vous reviendrez pour parler de ces entretiens littéraires,
hein,
c'est prévu. Mais je voulais vous demander, c'est quoi un bon livre pour vous?
Un bon livre pour moi, c'est un livre qui va m'emporter de la première à la dernière page. En fait, si vous voulez, j'appartiens à quelques jurys littéraires et on s'aperçoit très vite que ça ne sert à rien de persévérer au-delà de la page 50 quand un roman ne vous plaît pas. On n'est pas là pour s'ennuyer, on n'est pas là pour vraiment s'embêter. Moi, un livre, je suis dedans et je vogue avec lui.
Ah ben vous me faites plaisir, parce que parfois je m'accroche, parce que le livre, on en a parlé partout. J'ai des amis qui m'ont dit « il est formidable » et je m'accroche, et du coup on n'avance pas,
mais
effectivement.
Non. Mais je crois qu'il ne faut pas vous accrocher. Faut pas. Regardez, à la rentrée dernière, il y a eu 550, 600 livres de parus. C'est impossible, journaliste comme vous, que vous ne pouvez pas lire 500 livres.
Non.
Et ne me dites pas, on est tous d'accord autour de cette table, qu'il y a eu 500 chefs-d'œuvre. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible.
Il y a trop de livres.
Il y a trop de livres. Et là, en janvier dernier, il y en a encore 500. À l'époque, ça fait un peu le vieux combattant. Quand j'étais jeune libraire, il y en avait 200 à la rentrée littéraire. Et déjà, on trouvait que c'était trop.
C'était beaucoup.
Mais Antoine Boussin, est-ce que ça veut dire que les éditeurs, ils font plus leur travail de sélection
C'est compliqué pour eux. Ils sont très liés à leur trésorerie. Et il faut une trésorerie. Alors, il y a une bonne nouvelle là-dedans, c'est que dans les 550, 6 mois avant, on ne sait pas exactement quels seront les titres qui vont enchaîner le public. On ne peut pas prévoir les prix littéraires, on peut en prévoir certains. Mais la première liste du Goncourt, quand vous la regardez aujourd'hui, ce n'est pas une liste convenue, ce n'est pas une liste attendue. Pour le Médicis, c'est pareil. Donc il y a toujours des surprises. Regardez, là, dans mes entretiens, je reçois un jeune romancier pour son 3e livre. On a à peine parlé des 2 premiers. Là, il se retrouve dans la première liste du Goncourt et il obtient, contre toute attente, parce que s'il y a un prix qui n'est pas, comme les mauvais esprits peuvent dire, véreux, c'est le Goncourt des lycéens.
Ah, mais c'est...
C'est les lycéens qui lisent et les profs qui sont derrière. Eh bien, Sabile Gossoub a obtenu le prix Goncourt des lycéens.
Je n'ai jamais été déçue par le Goncourt des lycéens. Voilà. Ben, Antoine Boussin, en tout cas, merci beaucoup d'être venu témoigner.
12 entretiens quand même. On peut à la vitesse donner les noms. Il faut venir tous les écouter. Isabelle Autissier, Laurent Godet, Daniel Pénac, Sabile Gossoub, Jean-Baptiste Maudet et Emmanuel Ruben. Brigitte Giraud, prix Goncourt. Didier Decoin, président de l'Académie Goncourt. Et puis le week-end d'après, alors là, c'est le match avec l'Académie française, puisqu'on va recevoir Dominique Fernandez, Goncourt et académicien. André Makine, Goncourt et académicien. Et puis on va recevoir Dany Laferrière de l'Académie. Et on recevra en plus Philippe Besson, Lola Lafont et, amateur de théâtre et de poésie, Philippe Torreton, le dimanche 5 février. À 11h30.
À 11h30. Antoine Boussin, merci beaucoup.
Merci à vous.
Alors, les entretiens littéraires, c'est à la Collégiale Saint-Martin, les week-ends des 4 et 11 février prochains. Attention, c'est gratuit, mais il faut réserver sur le site en avant-première, à la Collégiale Saint-Martin, ou sur place. Et puis, on continue avec une toute petite pause musicale, toujours Violaine, What If It's You.
What if it's you who makes me count till two? I would do anything to be with you again. I would do anything to be with you again. Look in your eyes and I see the perfect man who would suit me. I've been waiting for so long, the love story in which I belong. Maybe.
Alors on continue avec vous, Minouche. Vous nous avez habitués aux trajectoires directes et voilà qu'aujourd'hui vous nous emmenez à la marge. Expliquez-nous ce changement de trajectoire.
Aucune trajectoire dans la marge où nous allons nous rendre, Bénédicte. La marge à Angers, c'est un atelier d'édition participatif. Un lieu où naissent des livres, où se créent des histoires, des romans, des contes, et où on fabrique les livres, un lieu de rencontre, d'échange, un café associatif. Il se trouve place Giffard-Langevin, cette nouvelle place derrière la gare. Et pour en parler, je reçois Agnès Bécavin, qui est membre de l'association. Agnès Bécavin, bonjour.
Bonjour.
C'est né comment la marge? C'est né quand?
Alors, c'est né en 2008 et ça c'est basé sur le modèle argentin des cartoneras. Alors, les cartoneras, c'est quoi? Ce sont des recycleurs. En fait, en 2001, il y a eu une crise économique et sociale en Argentine, ce qui a amené donc ces cartoneras à sortir de terre. Et en fait, ces personnes ramassaient des déchets dans la rue, notamment du carton. Et il y a eu quelques années après, en 2003, 2 amis artistes qui ont créé une maison d'édition, les éditions Eloïsa Cartoneras. Et pour faire face aux coûts de production et donc à cette crise économique, ils ont choisi de payer ces recycleurs pour du carton et en faire des couvertures de livres. Et donc ce modèle, Flora Belloin, qui est une fondatrice de La Marge, l'a exporté, l'a ramené ici à Angers.
Alors si je comprends bien, à La Marge on ramasse du carton?
Pas que.
Non. Expliquez-nous ce qu'on fait à La Marge.
Non, ce qu'on fait à La Marge... Alors oui, bien sûr, on va ramasser du carton pour créer des couvertures de livres. On va éditer des livres et puis nous-mêmes fabriquer l'objet, l'œuvre littéraire. On va faire de la reliure et on va dessiner, peindre, faire du collage, ce que l'on veut, mais en tout cas, on fait ses couvertures et après, bien sûr, on vend ses livres.
Vous les vendez comment, ces livres? Ils sont vendus où?
Ils sont vendus dans des salons, ils sont vendus dans des lors de manifestations comme par exemple les galeries Recyclettes à Angers.
Qu'est-ce que c'est que les galeries Recyclettes? Parce que ce nom est quand même extraordinaire. Oui. Les galeries Recyclettes.
Alors ce sont toutes les associations de l'économie sociale et solidaire d'Angers qui viennent le temps d'un week-end et qui vendent leur production.
Donc qui viennent place Giffard-Langevin, ah non, à la marge?
Pas du, ah tout. Non, pas du tout. Ah non. Pas du tout. Ils ne viennent pas chez nous à la marge. Mais les galeries Recyclettes, c'est un endroit où nous, on était. Hein, c'est on pourrait dire, un salon où l'on a vendu nos livres. Voilà.
Et ça a lieu tous les ans, ça, les galeries Recyclettes?
Tout à fait, ça. C'est un gros événement.
Eh bien, écoutez, on essaiera de vous recontacter à ce moment-là pour en parler, puisque ça nous intéresse.
Ah, mais tout à fait.
Et donc, moi, je reviens sur la marge, oui. Hein, parce qu'aujourd'hui, on parle de la marge.
Oui.
Si j'ai des dons en peinture, en dessin, je peux arriver à la marge, mais si je n'ai pas de dons, qu'est-ce qui m'arrive?
Ah ben, vous venez avec vous-même, avec ou sans don, vous venez comme vous êtes et on discute, on échange. Et si vous êtes intéressé pour apprendre à relier les livres, eh bien, on vous apprendra à les relier. Si vous avez juste envie d'observer, eh bien, vous viendrez observer. Juste envie de discuter, on discutera. En fait, c'est très ouvert et c'est ouvert à tout le monde.
Ouais, surtout. C'est pour les jeunes, pour les vieux?
Il n'y a pas d'âge, de 7 à 77 ans, en fait, comme nos ateliers. Que d'accord. L'on propose aussi.
Ouais, on va reparler de vos ateliers après. Oui. Je reviens à la marge. Les livres que vous éditez, ils viennent d'où? C'est qui les auteurs?
Alors les auteurs, ils se manifestent auprès de nous par bouche à oreille, parce qu'ils ont vu une affiche, parce qu'ils vont écouter aujourd'hui Radio Campus, et ça va leur faire tilt si je venais à la marge. Franchement, ils viennent de tout horizon. Des débutants, des auteurs confirmés, des jeunes, des moins jeunes, des romans, des BD, des romans graphiques. On va vraiment...
Tout vous intéresse.
Tout à fait.
Et mais est-ce que vous éditez tout ou bien vous choisissez?
Il y a un comité de lecture, comité de lecture bien sûr, donc on va, faire un choix à un moment.
Vous faites un choix à un moment, vous n'éditez pas tout le monde, il faut quand même passer par une sélection.
Tout à fait.
Voilà. Et donc après, vous allez peindre les... Vous m'avez dit, je peins beaucoup les couvertures.
Voilà, moi ce que j'aime c'est dessiner et peindre, donc c'est ce que je fais.
Alors si je comprends bien, chaque livre... va avoir une couverture différente.
Tout à fait.
Ça, c'est extraordinaire.
Ah oui, pour les auteurs, on a des auteurs qui sont très friands de ces couvertures uniques et qui nous demandent vraiment de que leur livre soit unique. Donc, c'est ce qu'on fait.
Vous m'avez dit que parfois, vous pouviez éditer à une centaine d'exemplaires et qu'on va avoir une centaine de livres différents.
Bien sûr. Effectivement, des fois, on fait aussi de la sérigraphie. Quand on a de grosses commandes, des salons qui approchent, on a beaucoup vendu, donc il nous faut aussi quand même de la production. Mais oui, c'est à la marge, parce que nous avons quand même beaucoup, plusieurs illustrateurs et c'est le cœur de notre
activité. Dites-moi, parlez-nous des ateliers, parce que vous vous intéressez aux enfants, il y a des ateliers pour eux?
Bien sûr. Effectivement, on fait des ateliers pour les enfants à partir de 7 ans et on propose aux enfants, alors en tout cas quand c'est à la marge, on leur propose de créer un carnet et on va leur apprendre à relier. Mais cet atelier s'exporte par nos bénévoles, notamment une qui est institutrice et qui a exporté cette idée dans sa classe et qui a fait tout un travail autour de l'écriture, de la littérature et après de la confection de l'objet.
Alors, c'est un café associatif aussi,
oui,
la marge?
Oui, tout à fait.
Je peux aller boire un verre là-bas?
Vous pouvez.
Voilà.
Le jeudi, à partir de 17h30 jusqu'à 20h30, on vous recevra avec grand plaisir pour boire un verre, pour échanger, pour parler, pour regarder et relier un livre ou dessiner.
Écoutez, c'est magnifique. Quels sont vos besoins, alors?
Eh bien, justement, des dessinateurs, des illustrateurs, des gens qui ont peut-être juste envie d'observer, qui ont aussi envie de couper du carton. Parce que avant de pouvoir arriver à un livre, il faut couper beaucoup de carton. Donc ça aussi, ça serait c'est bien quand on peut faire plusieurs choses.
Donc, auditeur de Radio Campus, la marge embauche. Hein.
Tout à fait. Alors,
allez faire un tour. Alors, on n'embauche pas parce que c'est du bénévolat. Mais en tout cas, vous êtes attendu là-bas si vous êtes intéressé. Écoutez... Hein, encore un petit mot pour Agnès.
Et oui, parce que nous proposons aussi le mardi du coworking. Donc de 9h30 à 18h30, vous pouvez venir travailler dans notre local.
Place Giffard-Langevin.
Tout à fait, parce que c'est plus sympathique de travailler à plusieurs.
Bah écoutez, merci beaucoup d'être venu nous voir et nous présenter La Marge. Et puis longue vie à La Marge.
Merci.
Alors si vous aimez les livres, La Vie Associative, La Récup, La Marge, c'est fait pour vous. Tous les renseignements sur le Facebook de La Marge et sur www.atelierlamarge.fr. C'est la fin de ce Franche Culture, 30 minutes de culture tous azimuts en Anjou. Retrouvez-nous un mercredi sur deux en direct à 17h, le dimanche à 11h30 ou bien sûr en podcast. Et n'oubliez pas, la curiosité se partage sur les réseaux sans modération. Très belle semaine à toutes et à tous.